Radio Judaïka 90.2 FM.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouf, vous êtes un salaud.
Ah, ça fait plaisir de retrouver tout le monde, de retrouver les chroniqueurs, les auditeurs qui nous écoutent et qui attendent, je suis sûr, ce moment avec impatience. On est donc le lundi soir, le premier de l'année. On va bien sûr jouer la prolongation. Ce soir, j'ai près de moi Blaise van der Linden.
Salut Samuel, salut à tous et bonne année à tous nos auditeurs et puis à vous trois autour de la table.
On vous souhaite une très bonne année aussi, Blaise. J'ai également un homme qui va être au centre des discussions ce soir. C'est Monsieur Steve Gris, qui, dont le club a connu un petit changement d'entraîneur.
Oui, mais on est confiant pour 2021. Et bonne année, bonjour à tous.
Eh ben bonjour Steve, bonne année. Et enfin, le troisième mousquetaire ce soir autour de la table. On vous présente plus, on est content de le retrouver. Il n'était pas là ces derniers temps. La dernière fois, c'est monsieur Henri Daniel.
Bonjour à tous, bonjour Steve. Bonjour Sam, bonjour Steve, bonjour Blaise. On est des survivants, les gars, on est en 2021.
C'est vrai, on est là, on a passé le jour de l'an. Écoutez, on va commencer avec le programme tout de suite. Ce soir, on va parler changement. Changement d'année, bien sûr. Le changement, c'est maintenant. Enfin, c'était, paraît-il, le cas il y a quelques années.
On a dit pas de politique.
C'est vrai.
On parle toujours foot, là.
On parle toujours foot. Non, les changements, il y en a eu. Changement à la tête du Standard, puisque Philippe Montagnier a été remercié et a laissé sa place à un nouvel entraîneur, Mbaye Ley. On profitera de ça pour parler plus généralement des changements d'entraîneur et des effets que cela peut avoir sur les clubs, en positif ou en négatif. On parlera également des changements de règles qui affectent maintenant les transferts vers la Première Ligue, puisque de nouvelles règles sont entrées en place depuis le Brexit, depuis qu'il est devenu effectif, c'est-à-dire aujourd'hui c'était le premier jour ouvrable. Et on va s'intéresser à ça, et à ces nouvelles règles et à ce que ça peut changer sur le marché des transferts. On vous dévoilera aussi notre équipe type de cette première phase de Jupiler Pro League. On débattra là-dessus. Tout le monde ne sera pas d'accord, je pense. Mais voilà, on a fait un panel représentatif des intervenants de l'émission.
Tout à fait objectif.
Voilà, nous permet de dégager une équipe type. On retournera en Angleterre pour faire un petit bilan des journées qui se sont déroulées durant la période dite du Boxing Day, puisque les Anglais on jouait entre le 26 et aujourd'hui 3 journées, Liverpool concluant le bal ce soir. Et ensuite, en parlant de Liverpool, on va s'intéresser au plus bel hymne de stade peut-être, hein, qui a perdu ce week-end son interprète. Je vous laisse le suspense ou j'en dis plus tout de suite. Enfin, vous ne marcherez jamais seul. Voilà ce qu'on peut dire. Et on terminera avec Big Rom, Romelu Lukaku, qui a fait son entrée dans la cour des très très grands ce week-end. Même si il y a peu de doute autour de cette table qu'il est déjà un très grand joueur. Voilà, c'est le coup d'envoi. On va parler changement d'entraîneur. Alors, l'actualité du foot belge et même l'actualité du foot européen ont été marquées par des changements d'entraîneur. On dit souvent la valse des entraîneurs, mais c'est vrai que depuis un mois, ça s'est un petit peu accéléré. On pense bien sûr au Standard de Liège qui a laissé partir Philippe Montagnier.
Et pas au PSG.
Un instant, on y vient. Donc, a été remplacé. On pense à l'Antwerp qui laisse partir, mais pouvait-il le faire autrement? Ivan Leko, mais on n'a pas encore le nom de son remplaçant. Effectivement, en France, il y a eu également des changements. Début du mois de décembre, Patrick Vieira avait été remercié de Nice. Courant du mois de décembre, et à peu près au même moment, c'est Christian Gourcuff qui quittait Nantes pour le retour, le retour de Raymond Domenech. Une curiosité, hein, vraiment pour tout le monde.
Le retour du Phénix.
Ah, le retour du Phénix.
C'est pas Raymond, la science, c'est un autre.
Non, c'est un autre Raymond.
Ils ont été courageux, hein, quand même. Parce... Écoute, ils se doutaient qu'ils allaient faire le buzz. Hein.
Ah, ouais, je pense que c'est ce qu'ils recherchaient, sans doute un peu plus de tranquillité pour le président qui est sous le feu de l'actualité en permanence, et au moins là, il aura un vrai bon paratonnerre. Et enfin, Henri en parlait, le Paris Saint-Germain, qui s'est séparé de Thomas Tuchel.
Non, je disais ça au hasard.
Au hasard, alors que son club était troisième, pour le remplacer par Pochettino, un ancien du Paris Saint-Germain. C'est pas non plus une légende du club, mais ils l'ont un peu vendu comme ça, pour faire plaisir sans doute aux supporters. Le plus faillot de tous ces temps, je sais pas si vous
Drexler,
avez vu ça, Draxler, qui a fait une équipe type de rêve, son équipe de rêve du Paris Saint-Germain, dans laquelle il a osé mettre Pochettino, donc son nouvel entraîneur. Moi qui suis un supporter du PSG depuis plus de 30 ans, je pense que Pochettino, je l'asseyais même pas sur le banc de la tribune.
Moi j'avais honnêtement oublié qu'il avait joué au PSG.
Moi aussi, mais par contre, moi je trouve que c'est un super choix. C'est vraiment un super choix.
Bien sûr.
Alors le faire passer peut-être pour une icône du PSG, moi non plus.
Non, mais ça c'était.
J'ai aussi moi redécouvert qu'il avait porté le maillot du PSG, mais par contre, moi je suis très admiratif de ce qu'il a fait pendant des années à Tottenham et je trouve que c'est une bonne pioche. C'est pas un aventurier qui va de club en club, c'est quelqu'un qui aime construire. Il y a des choses à construire au PSG et c'est à mon avis c'est un bon pari.
C'est un pari. En tout cas, je pense que c'est un pari aussi parce que souvent, lorsqu'on pensait au Paris Saint-Germain, on pense souvent à des changements d'entraîneur. Et on se disait, qu'est-ce qu'il faut comme nouvel entraîneur après? Et souvent, ce qui me revenait des gens qui s'y intéressent disaient, il faut un solide, il faut quelqu'un qui soit déjà établi. C'est pas vraiment le cas de Pochettino parce que, certes, il a fait un travail extraordinaire avec Tottenham, à l'Espagnol Barcelone, à Southampton, il avait été bon aussi. Mais son seul titre, il a pour l'instant une armoire à trophées aussi garni que celle de Dimitri Payet, l'attaquant de l'OM.
Oui, c'est-à-dire quel autre entraîneur avec des palmarès était sur le marché.
Après, il faut dire, c'est vraiment exactement le même pari que Emery et le même pari que Tuchel.
C'est exactement la même chose.
Et les deux n'ont pas réussi alors qu'ils étaient arrivés. On les présentait comme ceux qui allaient faire gagner la Champions League à Paris.
Absolument.
C'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, Pochettino, il a peut-être un peu plus de... d'idées, mais je suis même pas sûr qu'il ait plus d'idées que Tuchel quand il arrive de Dortmund.
Oui, parce que Tuchel, il avait une identité forte, pardon. Alors, il reprenait derrière Klopp, mais à Dortmund, il avait...
Et c'était assez proche de ce que Pochettino fait, en fait. C'est du football avec du pressing total, où c'est un mec qui va... Enfin, de base, qui devait suivre les joueurs au quotidien. Et je sais plus quel joueur expliquait que c'était Gundogan à Dortmund qui disait qu'un jour Tuchel était venu chez lui pour retirer une bouteille de ketchup de son frigo, et c'était ça qu'on attendait de lui, et au final il l'a pas fait, quoi. Donc je pense que c'est aussi en haut qu'il va falloir donner les pleins pouvoirs à Pochettino et pas commencer à donner des passes droits à Mbappé, Neymar ou...
La différence se fera dans la gestion du vestiaire,
hein. Ouais,
c'est ça, voilà, ouais.
C'est pas tactiquement, c'est des gens qui ont du métier, qui ont du football.
Mais quel autre entraîneur, je dis même pas disponible, parce que le PSG a l'argent pour acheter une clause, racheter un contrat.
En disponible, je pense qu'il y avait Allegri.
Oui, oui, oui.
Qui est toujours.
Mais bon. je suis pas sûr
les
que.
Les Kens, hein, toujours les Kens disponibles.
et Francky Vercoteren.
Mais même. Il paraît que Wilmot a envoyé son CV.
Non, mais Francky Vercoteren n'a pas l'ADN du PSG. Visiblement, c'est une chose importante.
Non, par contre, à Nantes.
Si on aime le pressing total, c'est pas Vercoteren qui veut
le passer.
Il aurait été candidat pour Nantes, effectivement, il y a joué.
Oui, mais parce que Nantes, il y a encore autre chose. C'est qu'il y a un agent derrière qui a accès au football, enfin qui a plus qu'accès au football belge et qui a les clés de Nantes. Donc
peut-être qu'il l'est pas en terme avec Francky Vercoteren, ce qui fait que ça n'a pas. Oui, pour terminer avec le Paris Saint-Germain, c'est effectivement le coach qui arrive avec un peu le même profil que les deux prédécesseurs. Il a effectivement aussi des idées sur le jeu, mais comme tu le dis, Henri, je pense que là, ça va être dans sa capacité à gérer les stars, à pouvoir mettre Neymar et Mbappé sur le banc ou les sortir s'il le faut.
Qui fait ça, Klopp, Guardiola?
Qui d'autre? Et encore.
Et encore. Et encore. Mourinho aussi, je pense. Mais non, mais je veux dire, je parle pas de, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très flamboyant, mais c'est un mec qui a le cran de dire à des gros joueurs, écoute, enfin, il l'a fait avec Casillas au Real, il l'a fait avec Cristiano au Real, il l'a fait avec Kaká, enfin, il l'a fait avec tellement de joueurs, je pense que c'est pas Neymar ou Mbappé qui va lui faire peur.
Non, mais il a la capacité de se mettre le groupe
ado. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
très
bien sûr.
Très grande capacité.
Je crois qu'il a moins de pression que les autres parce qu'il arrive en cours de saison, ils sont troisième. A priori, il devrait faire mieux.
Et puis, il aura toujours l'excuse
et
de
si
dire...
Et si ça va pas, il dit, bah, je suis arrivé dans un groupe en crise.
Ouais, moi, c'était pas mon groupe, j'aurais pas pris lui et lui. Voilà. Et...
Enfin, l'idée de base, c'est que, surtout si on prend lui, c'est pour construire, c'est pour l'année, c'est pas pour les six prochains mois.
Il a signé quoi?
Il a signé pour un an et demi.
Ah oui,
donc, et plus une année en option.
Et là, il y en a un qui pourra plus se cacher, c'est Leonardo, parce que, enfin, c'est pas forcément son choix à lui, mais c'est quand même sous sa houlette que ça a été fait, alors que l'excuse depuis le début, c'était Tuchel, c'est pas mon entraîneur, moi, j'ai pas choisi, donc maintenant, ça va être à lui de prendre les clés du camion, quoi.
Et absolument, et ben, on lui souhaite bonne chance à Pochettino, on vous tiendra informé des rebondissements du feuilleton parisien, parce qu'il y a toujours des rebondissements. En parlant de clés du camion, Philippe Montagnier a laissé les clés.
Philippe Montagnier est disponible pour le PSG.
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas.
Il a une si belle image en France.
Donc, Philippe Montagnier a laissé sa place à Mbaye. Un premier commentaire. Allez au hasard, Steve.
Mais vous allez être déçu parce que vous aimiez taper sur Montagnier toutes les semaines. Il va falloir retrouver un nouveau bouc émissaire.
On a été gentil, on a essayé de lui donner du crédit quand même.
Alors, tu veux m'entendre sur son licenciement ou sur le choix du remplaçant?
Les deux. Commençons par dans l'ordre chronologique.
Son licenciement, clairement, je crois, la direction avait dit, ça va dépendre du dernier match. Et je crois que le choix était fait, tout simplement parce que le Standard jouait contre trois équipes relativement faibles, ont perdu sans honneur, sans quasi-tir cadré. Ouais. Le groupe était plus que l'ombre de lui-même, clairement. Il y avait plus de. On a déjà évoqué peut-être le problème de fond de qualité, mais là, on n'est plus dans des questions de qualité. On était dans une question où il y avait plus rien.
C'était l'implication, quoi.
Il n'y avait plus d'implication, il n'y avait plus d'animation, il y avait clairement. Il ne se passait plus rien. Le groupe était soi-disant en apparence derrière son entraîneur, c'est pas ce qu'il montrait sur le terrain.
Pas en apparence, mais en parole, en tout cas.
En parole, oui. Pas dans le jeu.
Ça se voyait pas.
Pas dans le jeu. Et là, clairement, il avait plus, c'était plus le commandant à bord. Donc, je pense qu'il n'avait plus d'autre choix que de le faire.
Que de le faire sauter, effectivement.
Puis les chiffres, c'est...
C'était inévitable.
Mais je suis même... Il y a les chiffres qui sont où il était clairement en péril, mais les trois derniers matchs, la manière fait qu'on pouvait se dire qu'on ne peut même plus lui laisser du temps. Parce que ce n'est plus une question de temps, ce n'est plus une question de construction. C'est une question de... Il n'y avait plus de chef d'orchestre.
Mmh. Oui, c'est ça.
Personne ne jouait.
Et ces trois derniers matchs, c'était, comme tu l'as dit, c'était pas contre les trois premiers, quoi.
Contre des lanternes rouges.
C'était contre les trois derniers, quasiment.
Les trois derniers.
Non, deux fois contre des lanternes rouges.
Oui, c'est ça. Ouais. Et il n'y avait rien sur le terrain. Enfin, c'était...
Il n'y avait plus de solution. On avait l'impression que tout le monde avait baissé les bras. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais clairement, s'il n'y a personne qui est là pour remettre l'église au milieu du village, pour pouvoir commander un peu cette équipe, on peut perdre une fois, mais en 10 jours, perdre 3 fois contre les lanternes rouges, sans quasi tir cadré, il y a un souci, on ne pouvait plus laisser. Il fallait un entraîneur, il fallait un commandant à bord.
Oui, sans doute, c'est vrai que l'excuse de la malchance ou de tout ce qu'on veut, il y a un moment
où ça
se dégonfle. Enfin, ça peut être une vraie raison des mauvais résultats, mais il y a un moment
j'en ai vu des crises au Standard. Mais j'ai rarement vu un tel baisser les bras. Et pourtant, des crises, il y en a quasiment chaque année. Ou aller dans les meilleures périodes, un an sur deux ou un an sur trois. Mais ça, j'ai jamais vu. Mais c'est lié au fait qu'il n'y ait pas public. Hein. S'il y avait un public, hein, je peux vous dire que ça...
Honnêtement, ouais, ce serait bougé,
il aurait fallu un certain nombre de stewards pour éviter des envahissements de terrain. Là, ça aurait été assez... Il y aurait eu vraiment une grondaille, un brouhaha dans le stade qui fait que ça ne serait pas passé.
Mais je trouve que les supporters, qu'on l'a vu par des banderoles en dehors du stade, etc., ont vraiment canalisé sur Montagnier. Il n'y a eu aucun joueur qui a été pris en grippe.
C'est vrai.
Parce que dans des crises comme ça, il y a des joueurs qui ne pourraient pas se promener en ville, quoi.
Mais est-ce que les joueurs, en fait, ils avaient même pas de niveau, c'est même pas qu'ils étaient mauvais, c'est qu'ils étaient fantomatiques. Donc, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre à eux? Enfin, comment? Prendre un seul joueur en grippe dans une équipe qui est fantomatique, c'est compliqué. Alors, ce seraient les 11 joueurs qui devraient prendre, à part peut-être Baudard, donc les 10 autres joueurs. Sinon, ils étaient même pas nuls, ils étaient juste pas là, quoi. Enfin...
Oui, non, tout à fait.
Parce que t'as un mec comme Bastien, je m'excuse. Bastien qui a fait un début de saison parfait, il a disparu.
Alors Bastien, on le voit... honnêtement, il faut des fois, moi qui écoute des fois les matchs à la radio, il faut que je regarde véritablement, après sur la feuille de match, pour voir qu'il est dedans, parce qu'on n'entend pas son nom, quoi. On ne l'entend pas. C'est censé être un certain métronome. Ouais. Dépositaire du jeu, c'est comme ça qu'il s'est la carte de visite qu'il a déposée l'année passée et au début de cette saison. Mais là, il est inexistant. Et je rejoins Blaise. On peut en vouloir aux joueurs et on doit en vouloir aux joueurs. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas stigmatiser d'individualité.
Non.
C'est la faillite d'un collectif.
Ouais, et même de toute une organisation, parce que en haut aussi, c'est enfin dans la enfin. Là, on s'étend un peu.
Je pense qu'on va certainement y revenir, mais la faillite est collective au-delà de l'équipe.
Oui, c'est ça. Vous mettez le doigt sur un point intéressant et on change l'entraîneur. Pourquoi ? Parce que c'est le fusible. C'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est impossible de changer, de virer les 11 joueurs, de virer le manager général, le président. On change l'entraîneur et puis on voit bien ce qui va se passer.
Je sais pas si vous avez vu comment ça s'est passé. Donc le match se termine. Il y a les interviews officielles de Eleven et c'est le président qui vient, quoi.
Ouais,
on attend
le directeur
général. Enfin, ouais.
Alors après, moi je suis pas tout à fait contre ça parce qu'à partir du moment où ils avaient décidé de licencier l'entraîneur,
c'est très bien.
Ouais. Ils allaient pas.
C'est cohérent.
Ils allaient pas faire venir l'entraîneur.
Oui,
on lui aurait posé la question. Tiens, est-ce que vous pensez que votre position, votre poste est en jeu une heure après ou le lendemain?
J'imagine la scène, l'arbitre siffle la fin du match, les joueurs rentrent au vestiaire et t'as le directeur sportif qui attend bras croisés à l'entrée du vestiaire. Donc vous, Monsieur Montagnier,
c'est pas la peine de rentrer. On vous a préparé vos affaires.
Alors parlons premier goal. On voit sa tête, hein. On voit sa tête et qu'il est...
Ouais, il est dépité.
Il est dépité, il est démuni. C'est un goal gag en plus. Et il est démuni et il est sans solution.
Bon, et ben écoutez, on va le laisser trouver des solutions pour son futur. Et en attendant.
La Chine ou le Qatar, quoi.
Au mieux, il espère. On va s'intéresser à son successeur, tout jeune, 38 ans. C'était l'ancien T2 de Michel Preud'homme. Il a quitté le club dans des circonstances un peu... Enfin, il espérait peut-être un peu mieux à dernière intersaison. On l'a laissé partir. Je crois qu'on lui avait proposé d'être le T2 de Montagnier, peut-être, mais il n'a pas accepté. Il fait son retour, Mbaye. Ton sentiment sur le nouvel entraîneur?
Première chose, parce que je vais être très dur, première chose à dire, c'est que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est quelqu'un qui est valable et qui ça vaut vraiment la peine d'essayer. Mmh. Il a tout ce qu'il faut pour être un futur bon entraîneur et du Standard. Maintenant, on va pas être dupes. Hein. C'est un choix, c'est pas du tout un choix de conviction de la part de la
direction. C'est par défaut.
C'est économique. Ah
ouais. C'est un choix économique. C'est ça, Henri a tout à fait raison. C'est qu'on on doit payer évidemment le salaire. Il avait qu'un contrat d'un an, hein, Montagnier,
mais où?
Donc on doit lui payer ces 6 mois. Je parle de clubs. On a 2 clubs du top en Belgique qui ont des vrais problèmes financiers. Et on rigole vraiment pas avec ça. Ça peut être Vitel, c'est Anderlecht et le Standard. Anderlecht qui a une dette de 100 millions, le Standard, où il y a quand même un investisseur extrêmement important, un des principaux hommes d'affaires de la région et même de Belgique, qui a voulu investir au Standard et qui a décidé de ne pas paraffer à la dernière minute parce que ses banquiers lui ont dit « on a fait une due diligence, donc un audit de la situation, et fais attention où tu mets les pieds ».
Déjà, ils ont failli pas avoir la licence, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, ils n'ont pas eu la licence, ils ont dû faire un montage financier avec la tribune. Enfin...
Tout à fait, en créant une société immobilière dans laquelle on a injecté des fonds, mais qui ne sont pas le club parce que le club est déficitaire. Donc il y a clairement un problème financier, tout ça pour dire que Mbaye, c'est le choix de raison. C'est quelqu'un qui n'a pas de contrat, qui n'a jamais encore été entraîneur T1. C'est quelqu'un qui, clairement, a envie de faire ses preuves et on sait que c'est dur d'avoir son premier job. Donc, c'était quelqu'un de tout trouvé. On savait qu'il n'allait pas coûter beaucoup d'argent, qu'il allait plaire aux supporters parce que, clairement, d'abord, c'est une espèce... C'est pas une grande icône du club, mais c'est quelqu'un que tout le monde a bien aimé au club, qui, en plus, a des vraies qualités, des qualités humaines, des qualités de meneur d'homme, l'espèce de grinta standard qu'on aime mettre en avant. Donc c'est un vrai choix de raison, mais c'est un entraîneur sans expérience, c'est un entraîneur qui arrive dans un groupe qui ne va pas être renforcé. c'est casse-gueule entre guillemets pour lui.
Alors,
alors vraiment, si la direction voulait lui faire confiance, elle lui aurait fait confiance. Sérieusement, elle lui aurait fait confiance cet été plutôt que de faire appel à Montagnier.
Oui, et puis là, il a surtout pas fait un contrat de 6 mois seulement. Bon, il a eu beau dire après que c'était la durée était pas du contrat était pas importante, qu'il ferait ses preuves pour ensuite
être prolongé. Le standard ne veut pas s'engager plus. Voilà. On revient aux mêmes raisons. C'est qu'ils veulent pas faire un contrat d'un an ou un contrat de 2 ans. Si c'est pour payer après des indemnités de licenciement et réengager quelqu'un d'autre.
Oui, et puis moi j'ai entendu un peu la Deschamps, le non comment il s'appelle le
Alexandre Grosjean.
Grosjean, directeur pardon. Sportif, oui. qui disait, qui tentait d'expliquer le recrutement et qui a dit oui, on lui a dit oui, mais Franck Vercauteren. Il a dit oui, mais il y a plusieurs critères, il y en a un, c'est il faut avoir l'ADN du Standard. Et vous aurez bien compris que Francky n'a pas l'ADN du Standard. Je pense que c'est une chose qu'il devait savoir avant même de réfléchir à lui.
Honnêtement,
c'est sans doute, c'est financièrement que ça a coincé.
Quand on
quoi.
Parle de faillite à tous les étages, il y a aussi la faillite de la communication. Ouais. Dites pas, il a dit aujourd'hui, il y avait deux choix. Vercauteren et Bailey. Et Vercauteren, ouais, alors qu'on sait que Vercauteren, il a refusé pour différentes raisons personnelles, financières, etc. Il dit, oui, mais on s'est rendu compte qu'il avait pas, il a pas l'ADN Standard.
Comment on se rend compte?
Il peut pas être sur la liste, table, alors que ça se sait depuis toujours.
Il est pas
toujours,
dans les deux, c'est du fait qu'il a pas l'ADN Standard. Évidemment qu'il a pas l'ADN Standard.
Pour Mbaye,
ça manque. Il a Anderlecht sur son front et c'est un entraîneur très organisé, super défensif. Donc oui, il a des vraies qualités, mais ils ont pas découvert là, depuis une semaine, qu'il a pas l'ADN Standard.
Puis je trouve que c'est vraiment, on dit à Mbaye, d'abord, on n'a pas voulu de toi cet été. Et même en deuxième champ, on n'a pas voulu de toi.
Oui, c'est vrai.
On lui donne les clés, mais après que tout le monde ait refusé et que vraiment il y a eu les critères financiers. À part ça, il coche quand même pas mal de cases. Il connaît le football belge, ce qui est pas mal. Donc il est opérationnel tout de suite. Il a un discours qui est en général assez carré, je trouve, quand on l'entend comme consultant.
Oui, c'est ça. Je voulais revenir là-dessus sur son expérience de consultant. C'était vraiment intéressant de l'écouter parler foot.
Oui, il parle vraiment foot de façon analytique, je trouve. Mm-hmm. Il a du crédit par rapport au joueur, parce que quand il va dire à un joueur, il faut jouer comme ça, le mec était sur le terrain il n'y a pas longtemps, donc il sait de quoi il parle à peu près. Je parle pour des détails qui font parfois la différence. Donc il coche quand même pas mal de cases, et puis il avait envie.
Ouais, ouais.
Et puis un contrat de 6 mois, il a raison, il a 100% raison d'accepter. Un autre entraîneur aurait peut-être pas accepté, mais lui, comme tu dis, il a premier job, est quand même, il a tout à gagner. Exactement. C'est dur de décrocher un premier job.
Ça, je suis d'accord. Au pire, il rate.
Mais Le Cine a fait pareil, il a accepté un mini intérim à Anderlecht. Puis il se retrouve à Charleroi.
Mais aujourd'hui, le Standard a sorti une mini vidéo où il fait genre sa première prise de parole avec les joueurs. Et moi, j'ai trouvé hyper intéressant ce qu'il disait. Et en fait, il disait, vous n'avez aucun statut et j'hésiterai pas à vous mettre sur le banc si jamais il y en a un qui, entre guillemets, se croit plus beau qu'il est et qui pense pas qu'il peut progresser.
Il a déjà commencé. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il a fait un petit peu de nettoyage.
Ouais, faut voir si c'est lui. C'est la question que je me posais. Je ne sais pas si c'est lui. Si c'est pas lui, c'est déjà une énorme erreur. Hein.
C'est un peu un aveu de faiblesse, quoi.
Je sais pas, ça a été annoncé avant. Je suis étonné, moi, qu'on mette deux joueurs.
Ouais.
Qui oui ont pas mérité. C'est pas des ils ont mais qu'on les relègue de manière aussi humiliante.
Ouais.
Alors que Oulare quand il arrive c'était il y a un an du coup oui c'était à
non il y a
un an et demi.
Il a été tellement blessé.
Oui mais tout le monde disait quel merveilleux coup pour le Standard, ça va être génial et tout et puis maintenant bon voilà.
Mais je trouve que personne ne mérite une telle humiliation.
Non.
Vraiment. Je trouve ça humiliant, c'est pas utile.
Est-ce que c'est
de dire qu'il est excédentaire, le mettre sur le marché du transfert. Ok. Lui faire des sanctions internes éventuellement si tu n'es pas content. Mais en fait, tu n'es pas de sanctions internes parce que tu ne marques pas de goal, honnêtement. Mmh. Ils n'ont pas été énormément approvisionnés. Alors oui, ils n'ont pas performé, c'est certain. Mais humilier publiquement en mettant. Alors qu'il coûte une fortune et les mettre en moins de 21 ans, je trouve.
Et c'est uniquement parce qu'il a refusé de partir qu'il s'est fait rétrograder, je pense. Hein.
Alors. J'ai lu les infos comme tout le monde dans les journaux. Ouais. Honnêtement, on dit oui parce qu'il a pas assez marqué, parce qu'il est trop blessé. Ouais. Enfin, il y a aucun de ces arguments qui me semble justifier
non.
Une humiliation publique.
Est-ce que ça a un impact financier de le mettre en Noyau B?
Je pense pas.
Salarial, peut-être pas. Il n'aura pas les primes, quoi.
En tout cas, en droit belge, c'est totalement. Tu peux pas rétrograder.
Non, il a un contrat. Travail, hein.
Il n'aura pas de primes. Il en a pas eu non plus. Il faut gagner pour ça.
Il faut marquer.
Pour l'instant,
t'as des primes au match.
Non, t'as des primes de match et tu gagnes.
Si tu atteins.
Non, mais je pense que c'est pas grand chose, même si c'est de l'argent par rapport à ce qu'au déficit du Standard, les primes d'Oulare. Mais effectivement, c'est curieux aussi de prendre de prendre le poste, de mettre tout de suite deux joueurs de côté. Il a annoncé aujourd'hui quand même qu'il cherchait un attaquant efficace.
Efficace, oui.
Qui mette entre 15 et 20 buts.
Comme tous les clubs de foot. Clubs.
Non, mais je pense que le fait...
Il cherche un attaquant qui marque.
Qui marque. Le fait
ça,
de le dire...
Ça, c'est neuf.
Le fait de le dire, c'est peut-être aussi qu'on lui a dit, en haute sphère, qu'il aurait les... En tout cas, il aurait une recrue, j'allais dire, il aura les moyens de ses... de faire ce qu'il a besoin de faire, mais on lui a peut-être promis une recrue. Donc
mais 15-20 buts, il faut mettre entre 5 et 10 millions, et le standard
ouais, voilà.
Pas, ça.
Surtout si t'arrives en janvier, toi.
Ouais, c'est ouais. Ça. Enfin, ça, oui, c'est impossible, mais, enfin, le standard, ils peuvent pas claquer 10 millions, là, maintenant. C'est,
non, ils peuvent pas.
C'est physiquement impossible, quoi.
Écoutez, c'est.
Mais, comme je disais au début, je suis très dur envers la direction parce que je pense vraiment que c'est un choix et la manière dont ça a été communiqué. Voilà, c'est un choix de pure raison, c'est un choix parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix qu'ils l'ont fait. Mais par contre, clairement, c'est quelqu'un de très bien. Et je pense qu'on est tous assez d'accord autour de la table. Et pour lui, c'est un super challenge parce que s'il rate, personne ne lui en voudra. Et s'il réussit, sa carrière démarre.
Mmh. Ouais.
Je ne sais pas si vous avez lu, c'est seulement le troisième entraîneur africain en Europe.
Oui, je voulais insister là-dessus. Alors,
c'est étonnant, je ne connaissais pas le chiffre, mais c'est étonnant.
Bah, le nombre d'entraîneurs noirs est... vraiment sous-représenté. Mmh. Enfin, c'est
alors que ridicule. Dans le football.
Ouais. Bah, ouais, en France, ouais. il y a Antoine Camboire, il y avait Jean Tigana.
Viera
aussi, ouais. Cette saison, mais sinon.
Henri aussi.
Ouais, Henri, il est pas resté longtemps, t'as raison.
Bah, il entraîne à Montréal.
Oui, reviendra à Montréal. Donc, ça fait des changements. Il n'y a pas que la Belgique. Oui, on va parler, pardon. L'autre club belge qui change d'entraîneur, mais là, c'est pour des raisons complètement inverses. Enfin, pour des raisons. Puisque Ivan Leko quitte l'Antwerp qui est cinquième.
Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris quoi.
Eh ben moi je vais vous expliquer pourquoi. 5 millions d'euros nets en deux ans. Et okay. On constate, enfin par rapport à ce qu'il toucherait en Belgique, il gagnerait en deux ans ce qu'il aurait gagné en 15 ans en Belgique. Donc bon, voilà.
Le choix est vite fait.
Ouais, non, mais là ça peut se.
On a un auditeur averti qui nous parle aussi de Makelele.
De Makelele, absolument.
Et il veut africain.
Il veut mettre sa famille à l'abri, j'imagine, oui.
Ivan Leko,
comme on dit.
Mais en fait, il part où?
Il part à Shanghai.
Ok, ouais. En Chine.
Alors, il part en Chine. Et pas encore de nom de successeur du côté de l'Antwerp.
Georges Lekens.
On parle de Verkotteren.
Hein, oui. Bah, les chaises musicales.
Est-ce qu'il a l'étiquette Antwerp?
Est-ce qu'il a l'ADN
Antwerp? Peut-être un peu plus que standard.
Non, et non, pas. Bah, je sais pas. Non, pas vraiment. Parce que l'Antwerp nous a habitués maintenant à un football quand même assez joli, offensif. Mais pourquoi pas? Par contre, moi, j'ai pas de tendresse pour des mercenaires comme Leko.
En parlant de mercenaires, et en parlant de l'Antwerp et de mercenaires, un petit mot peut-être, Blaise, sur
Didier Lamkelze.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui
s'est passé? Donc, du coup, ce matin, il a mis une story Instagram où il est arrivé au centre d'entraînement de l'Antwerp avec un maillot d'Anderlecht, de Yannick Bolasie d'ailleurs. Et puis après, il a mis une autre story où il disait que demain il arriverait avec le maillot du Berscott. Et puis après, il a mis une autre story où il expliquait que il avait fait son choix, qu'il voulait partir en Grèce et que l'Antwerp ne pouvait pas l'empêcher de partir.
On attend le moment où dans ça monte toujours en escalade. C'était la mère de Rabiot qui était
Véronique
qui avait dit non mais c'est de l'esclavagisme ce qu'on fait à mon fils
combien
bientôt
millions.
On va le mettre dans un cachot avec du pain sec et de l'eau. Bon, pas exactement, mais effectivement les joueurs oublient parfois qu'ils ont signé des contrats.
Mais en plus ce joueur il était barré par Leko et Leko s'en va.
Je veux dire ce gars,
il
n'a
peut-être pas encore eu l'info.
Franchement, ce serait pas étonnant qu'il ait pas eu l'info.
C'est pas le premier entraîneur à part ça à partir cette saison. Il y a Torup à Genk qui est parti de son propre.
Oui.
Après quelques matchs, qui est parti à Copenhague.
Il y a eu du changement.
Je trouve que
effectivement, il y a eu.
C'est étonnant.
Non, ça avait été très mal pris.
L'interview de Bogonda qui dit il en voulait d'ailleurs l'entraîneur.
Mais il y a de quoi. Je dirais ça, c'est un projet collectif qui est en train de se créer. Je dirais ces gens sont des privilégiés qui gagnent très bien leur vie. Et il y a un vrai projet, un projet de fond. Et quand le capitaine quitte le navire uniquement pour des sirènes d'argent, c'est quoi le message qu'on veut faire passer tant aux joueurs qu'au public? Je trouve ça extrêmement dommageable. Je trouve qu'on en rigole certainement entre nous, mais je trouve que l'image sociétale est complètement atroce. Et moi, l'écho, qui je trouvais fait une chouette carrière comme entraîneur, là, clairement, pour moi, blacklisté.
Ouais, ouais,
il viendra pas au standard.
Il n'a pas l'ADN.
S'ils avaient les moyens.
Alors, est-ce qu'ils ont 5 millions en 2 ans à lui donner?
Cette saison, effectivement, Henri, tu le disais, il y a eu des changements au sein de la Jupiler Pro League d'entraîneurs depuis le début de la saison. Ça a été plutôt, pour le moment, bénéfique. On pense à Genk, qui s'est séparé de Wolf pour de Van den Brom, qui est maintenant deuxième. On pense aussi donc à la Gantoise, Torup, et maintenant c'est Van Azebroek qui est dixième. Du côté de Moucron, ça n'a pas changé. On était 18e, on reste 18e avec Simao. Donc écoutez, est-ce qu'il y aura un effet positif? Il y a toujours donc ce qu'on disait tout à l'heure, on fait sauter un entraîneur parce que c'est le fusible. On le fait sauter un entraîneur parce qu'il peut y avoir un effet psychologique. Les cartes sont un petit peu redistribuées au niveau des joueurs, notamment ceux qui jouaient moins et qui vont se dire « maintenant j'ai enfin ma chance ». Et puis on fait ça aussi pour briser une spirale négative. Et c'était le type de spirale dans laquelle était le Standard de Philippe Montagnier. C'est là que se trouve tout le problème, l'interrogation sur le fait de savoir est-ce que changer d'entraîneur, c'est toujours la bonne solution. Comme vous le savez, j'aime bien regarder les études statistiques et autres études d'économistes sur les questions. Il y a une étude néerlandaise qui a été faite par un économiste néerlandais qui s'appelle Bas Terwijl, qui enseigne à l'université de Maastricht, et qui a cherché à savoir si le remplacement d'un coach permettait une amélioration au classement. Donc pour cela, il a cherché un groupe statistique de contrôle, puisqu'il a cherché à comparer les résultats des équipes qui changeaient d'entraîneur avec celles qui n'en changeaient pas. Et donc son groupe de contrôle, il l'a composé en cherchant dans les périodes au cours desquelles la moyenne de points par match d'un club a diminué d'au moins 25% sur une période de 4 matchs, mais dans lesquels le club n'a pas licencié son coach. Donc vous avez un club qui marque un certain nombre de points, puis sur une série de 4 matchs, il chute dramatiquement, mais le club décide de ne pas le changer. Bon. Et donc il a vérifié, il a regardé tout ça, il a trouvé 212 occurrences sur les 20 saisons de dernière saison de Eredivisie, et il a constaté que même sans licencier le coach, les performances du groupe de contrôle rebondissaient de la même manière ou au moins aussi fortement que les performances des clubs qui ont licencié leur manager. En fait, une période extraordinaire de mauvaise performance, ça n'est rien d'autre qu'une période extraordinaire. Et après l'extraordinaire, souvent succède le plus ordinaire. Tout ce qui monte finit par redescendre. Et c'est vrai que une fois que les choses tendent parfois à se corriger automatiquement, et lorsque des joueurs reviennent de blessures, je pense dans le cas de notre Standard de Liège à Van Huisden, lorsque les tirs cessent de frapper les barres mais qui rentrent dans le but, lorsque la chance sourit un peu plus, ou lorsque le public, qui est le vrai 12e homme pour le Standard, revient, la spirale pourrait avoir tendance à s'inverser. Donc l'idée que le licenciement d'un coach, c'est vraiment la panacée et que ça va guérir les maux d'une équipe, c'est souvent une illusion qui peut coûter cher, comme on l'a dit. Financièrement, ça va coûter, en tout cas, le réaménagement de l'effectif, le paiement d'une indemnité à Montagnier. Après, ça peut créer de belles histoires, ça peut rebondir sur le moment aussi et s'effriter après. Je pense à Villas-Boas qui avait été à Chelsea, qui s'était fait virer, remplacé par Di Matteo, qui avait gagné la Ligue des Champions. Et le Di Matteo en question s'était fait virer 3 mois plus tard parce que les résultats n'étaient plus là à Chelsea. Donc, en effet, c'est toujours la solution la plus facile, mais pour des supporters, il faut être conscient que ce n'est pas non plus la solution miracle. Moi, je pense en plus, quand on licencie, bien sûr, en cours de saison, il y a toujours ce risque du fait que l'entraîneur qui arrive n'est pas tout à fait satisfait, entre guillemets, de l'effectif qu'il a, et qu'il considère qu'il va devoir faire des autres investissements pour avoir un effectif qui réponde tout à fait à sa vision du jeu.
Mais moi, j'estime, en fait, surtout qu'il y a deux côtés à ce phénomène de changer en plein milieu de saison. T'as d'un côté ceux qu'on va appeler comme les pompiers, par exemple Domenech dont on parlait tout à l'heure, où c'est un mec qui va juste être là, ça va être l'armée, Il va essayer de réveiller tout le monde, leur donner des coups de pied au cul, vulgairement dit, et puis ça va marcher deux semaines, un mois, et puis après, bon, ben, l'équipe est nulle, donc elle va redevenir nulle. Ou bien, avec l'exemple du PSG, par exemple, là, c'est six mois de gagné pour Pochettino, pour son projet, parce qu'on sait que c'est un gars qui va avoir un projet à la suite. Et donc, pourquoi attendre six mois avec Tuchel, où on sait qu'il était en bout de course de toute manière, alors qu'on peut déjà commencer pendant six mois à travailler avec Pochettino, où à la fin, il saura quel joueur il veut garder, quel joueur il veut pas garder, alors que s'il est arrivé cet été, au final, il se serait basé uniquement sur des statistiques et...
Sans doute plus pris par le temps, ouais, tu as raison, c'est vrai que c'est... Peut-être, vu de ce point de vue-là, c'est six mois de gagné. Oui, Henri ?
Mais quelle est la palette d'actions qu'un dirigeant de club a, quand son club s'enfonce. Sportivement, c'est rare de voir un président rentrer dans le vestiaire et de parler de tactique. Il peut jouer sur les salaires peut-être des joueurs ou sur les primes en essayant de leur mettre une pression, mais c'est évidemment plus facile de changer un entraîneur que 10 joueurs. Quoi.
Alors je pense que quand il y a des objectifs particuliers, il y a peut-être quelques leviers, mais effectivement quand c'est toute une saison. Je me rappelle du Paris Saint-Germain en 96, le PSG avait parfaitement démarré la saison et puis c'était complètement à la trêve, avait commencé à se déliter, mais il continue un parcours impressionnant en Coupe d'Europe puisqu'il va finir par gagner la C2, la défunte C2. Mais le président, comme il y avait une sorte de cassure entre Luis Fernandez et les joueurs, il avait décidé de faire venir Yannick Noah, qui était un peu le sorcier de la gagne.
Ah, il était à Bruxelles d'ailleurs,
la finale. C'était la finale à Bruxelles. Et donc voilà, là c'était effectivement un levier parce qu'ils étaient bien embarqués en Coupe des Coupes, que de toute façon le championnat était perdu et qu'il ne fallait pas perdre cet objectif. Mais je suis d'accord qu'un club qui est en milieu de tableau, qui n'a pas d'objectif autre... Il n'y a pas grand chose d'autre effectivement à faire, sauf à faire le dos rond, à dire on soutient l'entraîneur parce qu'on pense que ça va se rétablir.
Mais je sais pas si vous remarquez, mais c'est vrai que les supports, parce qu'on dit c'est pas la panacée, c'est pas la solution, mais en tant que fan de foot et en tant que supporter, on le sait. Et ce qu'on remarque d'ailleurs très souvent dans le chef des supporters, c'est que c'est rare que leur grief soit exclusivement porté vers l'entraîneur. Ça peut arriver, mais ils vont vite se tourner, comme c'est le cas récemment au Standard, mais c'est le cas dans plein d'autres clubs, sur les joueurs, sur tout partie de la direction. Les supporters ne sont pas dupes que l'entraîneur n'est pas le seul responsable et que l'entraîneur est finalement le choix le plus... Ou le choix le plus facile, ou comme dit Henri, le seul choix possible, en définitive, au cours d'une saison. Et donc, on le sait parfaitement que changer d'entraîneur, c'est pas revenir à zéro, c'est pas du tout la garantie de succès. C'est parce qu'il y a un problème au niveau des joueurs, ou parce qu'il y a un problème au niveau des gens qui ont choisi, qui ont mis en place l'infrastructure, la structure du club, et donc le choix des joueurs, donc la direction.
Exactement. Écoutez, on va les laisser tous, on va leur souhaiter bonne chance à tous les entraîneurs. Oui, on pensait à Domenech, ça va être rigolo ça de voir ce qu'il va faire.
Mais aussi, pour revenir deux minutes dessus, ils ont quand même viré Gourcuff, qui est un des meilleurs entraîneurs français en activité, pour mettre Domenech, qui est le pire entraîneur français de toute l'histoire.
Finaliste de la Coupe du Monde.
Ouais, c'est Zizou l'entraîneur à ce moment-là.
Rafraîchissez-moi la mémoire, il a entraîné depuis...
Il n'a pas entraîné depuis 2010 et en club, il n'a pas entraîné depuis 93.
C'est ça qui est incroyable.
C'est que
de 93 à 2004, il était entraîneur des espoirs. Avec lesquels il réussissait plutôt pas mal. Puis ensuite, là, depuis 10 ans, il était
entraîneur des espoirs. Ils sont devenus champions du monde.
Certains. Mais après, là, depuis 10 ans, il était entraîneur. Il était à la DTN, donc c'est un peu lui qui formait les entraîneurs français. On ne peut pas dire que le modèle des entraîneurs français, on va laisser Didier Deschamps à part, mais enfin quand même, c'est quand même pas un modèle de football chatoyant.
Et puis Deschamps, il n'est pas formé France, il est formé Italie.
Italie, Juve.
Et il est formé Nantes, cela dit, mais je pense que c'est... Mais enfin oui, Nantes, ils avaient un très beau technicien, mais qui n'arrivait pas
à faire des résultats. Donc ça fait plus de 10 ans que personne n'a pas entraîné.
Oui, monsieur.
Il était déjà pas au top à l'époque, le football a quand même sacrément changé.
Je crois que ça fait 10 ans que Nantes n'a pas joué au foot.
Il a 68 ans, alors sans faire
de jeunisme.
Oui, voilà, mais bon, ça demande aussi une implication de tous les instants. Est-ce que Raymond aura la force de faire tout ça? On observera ça.
J'ai une petite remarque d'un auditeur averti qui nous dit que quand même l'école Prud'homme est bonne parce qu'il a eu Ley comme T2, mais il a eu Clément et Léco également comme T2.
Ah, belle formation.
Belle formation.
En tout cas, j'aurais bien aimé être une petite mouche lorsque le vestiaire a appris la nomination de, la nomination de Domenech.
Ah, apparemment, il y en a plein qui ont appelé leur agent pour leur dire « moi, je vais me casser ». Enfin, j'ai vu ça dans le journal de l'équipe, je pense.
Allez, ça va, mais cela dit, ouais, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Il est venu en bus ?
Il a dit qu'il dira à la presse tout ce que les joueurs voudront. Il passera les messages. Un bon passeur de messages. On va arrêter là pour les changements d'entraîneur. Hein. On en a bien parlé. On va maintenant passer à notre petit sondage. On s'est donné comme mission cette semaine de confectionner notre équipe type de la Pro League. Alors chacun des différents intervenants de l'émission m'a soumis son équipe et le comité de direction, c'est-à-dire moi, a compilé ses résultats et va vous donner donc notre équipe type. Je voudrais qu'on en parle, bien sûr. Dans les buts, alors de manière peut-être surprenante, c'est Kofi, le gardien de Moucron, qui a été plébiscité. Alors je dois dire à égalité, quasiment à égalité avec Arnaud Baudard. On a donné la préférence à Kofi parce que malgré la dernière place de Moucron, le club, il n'a encaissé que 30 buts. Je crois qu'il y a 7 équipes qui ont encaissé plus de buts que lui. Donc on peut dire que d'une certaine manière, s'il n'avait pas été là, l'équipe serait peut-être encore plus bas.
Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est surtout qu'il est hyper spectaculaire.
C'est exactement
comme des fois, il fait des parades qui sont pas hyper...
C'est exactement pour ça que j'ai voté pour lui.
Ouais. Non, c'est des plongeons
inutiles. Le côté spectaculaire, mais quand même efficace.
Ah oui, complètement efficace.
Alors en défense, on a...
Et personne n'a voté le gardien de Bruges, Mignolet.
Si, il est troisième, mais...
Didier, peut-être ?
Il est troisième... Il est troisième dans notre. Il est au pied du podium, enfin, à la troisième marche du podium. Mais disons que si on avait une équipe à faire, il resterait dans la tribune. C'est Baudard qui prendrait la place sur le banc. En défense, à droite, on a Mata. À gauche, on a KMB. Et en défense centrale, une belle défense centrale, Hannes Delcroix et Zino van Huysden.
On était tous d'accord, parce que c'est exactement la défense que j'ai retenue.
On était quasiment tous d'accord.
Pour l'axe central, j'étais tout à fait d'accord.
Ouais, cet axe central a fait l'unanimité quasiment.
Delcroix, je l'ai mis comme promesse, hein, parce que je ne crois pas que la défense d'Anderlecht était spécialement à mettre en avant, mais lui, il tirait son épingle du jeu, et clairement une très 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 belle promesse, je trouve.
Il a fait une apparition chez Diable pas top, qui,
c'est une marche au-dessus, hein, c'est vrai.
Ouais, que ça l'a un peu desservi. Mais en
tout cas, on était tous unanimes.
Van Huysden, clairement.
Voilà, ça pour sur.
Et surtout, plus qu'il n'est pas là.
Ouais, exactement. On voit quand.
Il a tout à gagner à pas être dans le naufrage, quoi.
Ouais. KMB, sans doute le meilleur Carolo depuis le début.
Et récompensé par les Diables. Franchement, il le méritait.
Il le méritait. On a eu une Sobol aussi, et qui a été proposé. Et Delette.
Richie Delatte.
Richie Delatte, pardon.
Qui fait une super saison.
Qui fait une belle saison, oui, ouais. Il est sur le banc. Il est sur notre banc. Un milieu de terrain à 3, alors en pivot, en joueur central, c'est une équipe offensive.
Oui.
La promesse d'Anderlecht, Sambi Lokonga,
la seule lueur dans ce qu'on a vu du premier tour, je pense.
C'est vrai, hein, mais c'est vrai qu'il a fait notamment sur la fin là des très très bons matchs.
C'est-à-dire qu'il a progressé.
Ouais.
Moi, il m'impressionne par sa maturité dans le jeu. En fait, c'est vraiment. T'as l'impression que le mec il joue depuis 5 ans titulaire à Anderlecht.
Il y a une anecdote quand même avec ce penalty où Vlap veut prendre la balle.
Oui.
Et c'est Nemecha qui est désigné pour tirer penalty, mais Vlap prend la balle, veut tirer, et il arrive en capitaine, il prend la balle, sans s'énerver, il prend la balle, et il la donne à Nemecha.
Et il n'est pas vieux, hein. Enfin, il a
21 ans.
C'est assez révélateur de son état d'esprit.
Je suis d'accord. Les deux autres milieux de terrain sont des joueurs vraiment offensifs. On a Lior Refaelov, qu'on a fait descendre d'un cran pour le faire jouer milieu offensif. Et on a la surprise, la révélation de la saison, Raphaël Holzhäuser, le joueur de Berscott. Ça fait un milieu de terrain assez offensif.
En termes d'équilibre, c'est un peu compliqué.
Les joueurs de Bruges ont été cités, pas uniquement par les supporters de Bruges, qui peuvent constituer le comité de vote. Van Aken, bien sûr, Vormer également. Et en attaque, on a justement un joueur de Bruges, Noah Lang, qui a convaincu par sa maîtrise technique, sa qualité de jeu, là, c'est vraiment une belle acquisition pour le championnat de Belgique. Hein. Il y a un super, super attaquant qui a été formé à l'Ajax. On le mettrait à droite. Son pendant à gauche a lui aussi emporté quasiment les suffrages de tout le monde. C'est Bongonda, qui réussit une très belle saison. Et enfin, pour le poste d'avant-centre, il y a eu une bataille que j'ai été obligé d'arbitrer, puisque c'est moi l'arbitre. Et j'ai décidé que c'était Onuachu qui serait à la pointe de l'attaque. Dieu merci, Mbokani était en concurrence, mais on peut pas lutter contre
assez décisif,
les 15
saison.
Buts. Voilà. Onuachu, on aurait eu du mal à se priver du meilleur buteur.
C'était quand même l'équipe du premier, l'équipe de, en tout cas de la deuxième partie de 2020. Mbokani était un tout petit peu en deçà. Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc voilà, on aurait ce 11-là, et sur le banc, on mettrait Arnaud Baudard, Richie Delade, Van Aken, Vormer, Mbokani, et il y a un joueur qu'on est deux seulement à avoir cité. C'est le petit Xavier Mercier. J'aime bien quand on dit le petit Xavier Mercier, belle saison à OHL.
Il a des bonnes stats.
Clairement, moi, j'essayais de le mettre, j'ai pas réussi à le mettre dans mon équipe parce que j'ai voulu un défensif. J'ai mis Oguzou, moi, parce que j'ai vu qu'il est très bon et sinon c'était trop offensif comme équipe.
Moi, mon équipe n'était pas équilibrée, j'avoue.
Moi non plus. J'avais un milieu avec Mercier, Raphaël, Off et Sambi, du coup.
C'est vrai que Mercier est formidable. Il forme. Je ne les connais pas encore bien, mais ils sont trois, hein, deux ou trois.
Il y a Henri et Mercier.
Ils sont très très bons.
Hein. Ouais, une belle doublette.
Et Holzhauser, on l'a mis, même si dans les derniers matchs, il a un peu rentré dans le rang.
Mais il a apporté quelque chose sur ce premier tour, il a apporté vraiment quelque chose.
Ouais, statistiquement, et puis c'est vraiment, je trouve, un beau joueur. Il est soyeux, il a un beau...
Puis il est à la fois passeur, à la fois buteur.
Ouais, ouais. Non, c'est...
Malgré son gabarit pas forcément adapté à son style de jeu.
Onuachu, pareil, il a un gabarit qui...
Ouais.
On pourrait s'attendre à ce qu'il marque des goals de la tête d'un mais par contre...
Et Holzhauser, on le récompense, si je suis sûr qu'il sera très touché, on le récompense pour... il a été sélectionné, je crois, pour la première fois en équipe d'Autriche. Et donc, bon, bah voilà.
À 27 ans.
Ouais, c'est vraiment une révélation sur le tard. C'est en tout cas un bien beau joueur. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors, si on s'était dit un coach, j'ai eu quelques suggestions. Quel est le coach? Est-ce qu'il y a un coach qui se détache pour vous depuis le début de la saison?
Moi, j'avais beaucoup aimé l'Antwerp, et du coup, c'est l'écho, mais bon, maintenant c'est devenu un mercenaire, donc.
Moi aussi. Alors, je vais en choisir un autre mercenaire, mais finalement à son corps défendant, Van Azebroek. Hein.
Ouais.
Van Azebroek. Ouais, pour sa reprise de la Gantoise.
C'est vrai.
Que je trouve vraiment pas mal.
Parce que c'est facile de mettre Clément, enfin, je veux dire, il est prouvé, il a une super bonne équipe.
Oui, c'est vrai que c'est toujours. C'est vrai que ça semble pas très juste pour le club de Bruges, parce qu'ils sont en tête et qu'ils ont pas énormément de représentants dans l'équipe.
C'est parce qu'il y a des évidences.
Bon, mais effectivement, peut-être qu'un milieu de terrain, Vormer, Van Aken,
j'aurais pu mettre toute l'équipe de Bruges.
Exactement.
Ça aurait été plus facile.
Moi, comme coach, j'ai choisi au hasard Compagnie, parce que c'est le seul jeune entraîneur qu'on a.
Ouais, au hasard.
Au hasard.
Moi, j'aurais pris Vandenbrom, tiens. Voilà.
Au hasard.
Écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit break avec de la musique. Ça va nous donner le temps de respirer un peu. C'est Carlos Santana, Smooth. My spin.
let's forget about it.
Smooth, Carlos Santana. On est de retour. On joue la prolongation. C'était la mi-temps. Hein. Et voilà. Et on repart pour la deuxième partie de l'émission. On a parlé changement d'entraîneur. On va maintenant parler changement de règles. Puisque, comme vous le savez sans doute, ça n'a pas pu vous échapper. La Grande-Bretagne a quitté l'Europe et en quittant l'Union européenne, la Grande-Bretagne quitte les règles, les lois qui régissent l'espace européen. Et donc la liberté de circulation des travailleurs, qui s'applique donc aux joueurs de foot de la même manière, cesse de s'appliquer en Grande-Bretagne. Et donc on a mis en place là-bas des règles pour permettre les transferts de joueurs. En fait, on a aligné les règles qui s'appliquent aux Européens continentaux à celles qui s'appliquaient plus ou moins aux étrangers qui venaient de d'autres continents, et en les modifiant un petit peu. Il y a trois grands changements à retenir. La première, c'est une interdiction des recrutements des joueurs de moins de 18 ans. Puisqu'en effet, il y avait une dérogation en fait. Il y a une dérogation qui s'applique aux associations plutôt, aux fédérations qui sont membres d'un pays membre de l'Union européenne, puisqu'on ne peut pas interdire ce genre de recrutement en droit européen, mais puisque la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, eh bien les règles de la FIFA qui interdisent les transferts de joueurs de moins de 18 ans s'appliquent. La Première Ligue était une... En tout cas, ça donnait l'impression d'être une grande consommatrice de talents issus de centres de formation. Ça va devoir changer. On se souvient tous des précédents qu'étaient Fabregas, Gérard Piqué qui était allé lui à Manchester United ou Paul Pogba. Là, ce ne sera plus possible d'acquérir des joueurs de si jeunes à 16-17 ans. Il faudra attendre au minimum 18 ans pour les voir en Grande-Bretagne, en Première Ligue. Ensuite, la limitation du nombre de joueurs de moins de 21 ans venant de l'étranger. La limitation a été fixée à 3 joueurs par mercato et pas plus de 6 par saison. Donc, C'était libre jusque-là. Alors donc vous pouvez avoir un club peut faire venir un maximum de 3 joueurs ayant moins de 21 ans étant étrangers. par fenêtre de mercato. Et enfin, le troisième point, c'est l'instauration d'un permis de travail qu'on obtient en cumulant des points. En fait, ça existe déjà en Grande-Bretagne, c'est le GBE. Et ce permis de travail donc s'obtient en cumulant des points selon un barème qui a été fixé en fonction de plusieurs choses, l'expérience internationale du joueur, le club de provenance en prenant en compte le niveau du championnat, le classement de son équipe en fin de saison, le parcours européen fait par son club et enfin troisième critère, les minutes jouées avec le club, puisque si vous avez joué la totalité des matchs d'un club qui est bien classé, a priori vous aurez votre permis de travail. Pour simplifier les choses, si vous êtes un international dans une équipe qui est classé, disons, jusqu'à la 50e place du classement FIFA, et que vous jouez un peu plus de la moitié des matchs, vous aurez automatiquement votre permis de séjour. En revanche, si vous faites partie d'une petite nation, même si vous jouez toutes les minutes, vous êtes le capitaine de, mettons...
Gibraltar.
Bon, là, c'est vraiment une petite, mais au-delà de la 50e place. Donc, ça peut être des pays aussi qui ne sont pas ridicules, mais.
Slovaquie.
Slovaquie, vous avez deux points seulement pour avoir joué 100% des minutes de votre sélection.
Je te dis un pays, tu connais les points.
Voilà, exactement. Trop fort. Non, et donc, il faut 15 points pour obtenir le permis. Alors, on peut se demander si tout ça va beaucoup changer.
Il y a des dérogations, hein.
Exactement. Il y a un système de panel de dérogation. On va y venir. Il y a des changements qui sont en tout cas sur le papier. On va se demander s'il y aura vraiment des réels changements dans le mercato. Les premiers changements qu'on peut induire de les conséquences pour la première ligue, c'est donc un accès qui va être beaucoup plus compliqué aux jeunes joueurs. Donc,
mais c'est aussi, enfin, je te coupe, mais c'est un problème pour les championnats dits formateurs comme la Belgique, comme la France, parce que du coup, les Anglais vont plus pouvoir venir faire leur supermarché dans ces championnats-là, et donc ils vont plus injecter les sommes pharaoniques qu'ils injectaient, des 25 millions pour Fellaini, des sommes qu'on voyait
nulle part. Des 40 millions pour Fofana qui est parti de Saint-Etienne.
Ouais, c'est ça.
Fofana,
ouais, voilà,
c'est exactement le type de joueur qui aurait pas pu y aller, parce qu'il a 19 ans, et il avait joué, ou je sais pas quel âge, non, il a peut-être 20 ans, mais il avait joué 19 matchs en Ligue 1. Et avec 19 matchs en Ligue 1, aucune expérience internationale, pas de parcours européen et un club qui finit 12e, il avait pas de permis.
Et c'est d'ailleurs en prévision de ça qu'il voulait absolument partir de Saint-Etienne, parce qu'il savait que c'était la dernière chance qu'il avait, quoi.
Et donc effectivement, ça c'est, ce seront les conséquences, disons, pour les autres championnats. On s'intéresse d'abord aux conséquences pour la première ligue. Il faut savoir déjà que ces mesures ont été mises en place en concertation entre la première ligue et la FA, donc la Fédération anglaise de football, avec une idée en tête, c'est de bénéficier et d'être un bienfait pour la sélection anglaise. Le communiqué qui accompagnait la publication des règles disait que le nouveau système répond aux objectifs communs de la Première Ligue et de la FA en permettant l'accès aux meilleurs joueurs et aux futurs talents pour les clubs, ainsi qu'en protégeant les équipes anglaises en assurant des opportunités aux joueurs locaux. Donc c'est les deux choses qui sont les deux objectifs poursuivis, c'est de permettre un recrutement des meilleurs, puisqu'il faudra que les joueurs étrangers cumulent un certain nombre de points, et donc on peut penser que ce seront les meilleurs joueurs des championnats étrangers seulement qui pourront venir en Angleterre. Et dans le même temps, l'idée est de permettre aux plus jeunes Anglais, eux, de pouvoir jouer plus régulièrement, puisque si la place n'est pas prise par des jeunes Français, Belges ou autres, eh bien ce sont les jeunes Anglais qui joueront. C'est l'objectif.
Est-ce qu'un Gallois est étranger ?
Alors, un Gallois, non, mais il y a un problème avec les Irlandais. Les Écossais et les Gallois sont pas considérés comme étrangers.
Pourtant, ils jouent dans une ligue, ils jouent pas en FA League.
Ouais, mais c'est les Irlandais, parce que beaucoup d'Irlandais, de jeunes Irlandais, sont de manière assez habituelle recrutés très jeunes pour rentrer au centre de formation.
Ils sont pas considérés comme un Belge.
Et là, ils sont considérés comme un Belge. Les Irlandais, la République d'Irlande, l'air. En revanche, les Gallois, comme ils font partie, les Gallois, les Écossais, eux, ils sont dans une autre fédération, mais ils font partie de la Grande-Bretagne. Ils sont sortis de l'Europe, jusqu'à ce que l'Écosse y revienne peut-être, mais en tout cas...
Donc ils peuvent prendre un jeune Écossais.
Un jeune Écossais, voilà. Mais on soulignait d'ailleurs dans pas mal d'analyses le fait que ça allait être pour l'Irlande que ce sera peut-être le plus gros problème, parce qu'eux, ils ont l'habitude d'avoir quasiment tous les joueurs qui jouent en Angleterre depuis très très jeunes, puisqu'ils ne sont pas considérés comme étrangers selon la réglementation de la fédération anglaise, mais que maintenant, ils sont, étant membres de l'Union Européenne, ça va être un peu compliqué.
Ouais, donc eux, ils seront contraints de rester jouer en Irlande, ou bien dans les autres championnats, mais généralement, on ne trouve pas trop de joueurs irlandais dans les autres championnats. Sauf donc au final, c'est leur équipe nationale qui va en pâtir.
Sans doute, c'est ça.
Ok.
Donc les conséquences, on l'a dit, pour la première ligue, il y aura un accès plus difficile aux jeunes joueurs. Il va y avoir, alors là c'est assez amusant, une conséquence qui a été, comme on a revu les barèmes, le barème des points qui existait avant, mais il a été revu. Il y a une chose qui est passée un petit peu inaperçue, c'est que parmi les points que vous marquez, vous avez les points que vous marquez en fonction du parcours que vous avez fait dans une compétition internationale. Les compétitions internationales sont classées en bande 1, bande 2, bande 3, et donc la plus prestigieuse attribue le plus de points. Et dans la plus prestigieuse, ils ont mis à l'égalité la Champions League et la Copa Libertadores, ce qui est une bonne chose, mais ce qui veut dire qu'un joueur qui fait une très bonne saison, un Sud-Américain qui joue dans un club qui va très loin en Copa Libertadores, aura sans doute les points tout de suite pour pouvoir avoir son permis de travail. Alors qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains qui se voyaient refuser jusqu'à présent leur permis de travail en Angleterre parce que justement, ils ne répondaient pas aux